Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de la tech, jusqu'à 20h30, on prend quelques sujets les plus forts du jour et on essaie d'aller un petit peu plus loin, de comprendre ce qui se passe et de débriefer tout ça avec nos experts ce soir. Nous avons Philippe Devost. Salut Philippe.
Bonsoir François.
Qui est stratégique advisor chez Jolt Capital. Encore un Fred. C'est pas possible ça.
Toute l'équipe.
On a toute l'équipe de Jolt Capital.
Absolument.
Yves Maître. Jean Schmitt, maintenant Philippe Devost. Voilà. Mais que se passe-t-il ? Vous faites un putsch ou quoi que ce soit ?
Alors, c'est pas un putsch, c'est simplement la conséquence de la croissance et du chemin que fait Jolt depuis ses débuts il y a 15 ans.
D'accord.
Qui les a quand même conduits à lever leur cinquième fonds, dont la levée n'est pas terminée, mais qui ont déjà closé pas loin d'un demi-milliard d'euros.
Oui.
C'est un des plus gros fonds de deep tech de la place.
Ouais, ouais.
Et le closing n'est pas terminé, puisque leur objectif est d'atteindre le milliard. Et donc, ils sont structurés. Et moi, je les rejoins comme advisor, c'est-à-dire comme conseiller externe sur des sujets.
D'accord.
Et notamment sur les sujets liés à la deep tech et sur la mobilisation de l'écosystème deep tech français, qui est représenté aujourd'hui par l'association France Deep Tech, qui renouvelle son conseil d'administration. Et au titre de représentant des investisseurs, je vais candidater à ce conseil pour le compte de Jolt.
Eh bien, je crois que c'était la présentation du débriefeur la plus longue jamais vue dans Tech & Co, la quotidienne.
Oui, mais c'était intéressant.
Mais c'était intéressant, c'est vrai. Philippe, qui est aussi, alors ça, il le restera toute sa vie, cofondateur de Wanadoo, accessoirement.
Oui.
Mais c'est pas la peine que tu nous expliques.
Non, on a fêté ça hier soir, les 30 ans.
30 ans de Wanadoo.
Oui.
Eh bien oui, incroyable. C'est dingue, hein.
Il y avait qui?
Le temps passe.
Alors, il y avait...
Ah non, mais Fred, tu le relances, on est mort.
Il y avait Michel Bon, il y avait Nicolas Dufourcq, il y avait Yves Parfait, il y avait Roger Courtois, le premier président de France Télécom Interactive. Il y avait vraiment tout. On était plus d'une centaine.
Ah oui.
Alors, vous avez ressorti le Minitel pour l'époque ou pas?
Non, j'ai pas apporté mon t-shirt Wanadoo, sinon là, il faudrait faire une deuxième émission, mais j'avais le t-shirt d'origine.
Wow.
Avec l'abeille dans le dos.
Wanadoo, vous rendez compte un peu.
Voilà.
En tout cas, merci d'être là. Et comme quoi, chez Jolt, ils sont pas trop mauvais parce qu'on a quand même pas mal d'experts qui viennent dans Tech & Co. Ça, c'est plutôt cool. Christophe Honnête n'est pas mal non plus. Salut Christophe.
Bonsoir François.
Senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Merci d'être là. Et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business.
Bon,
t'es pas encore dans un fond, toi? Non.
Non, je touche pas le fond. Elle était facile. Bon, elle était facile.
Oui. C'est bon. Bravo. Allez, on va commencer par ce sujet très intéressant. En tout cas, on constate que l'Europe accélère sur pas mal de sujets liés au numérique et elle a dévoilé aujourd'hui ses propositions pour la souveraineté numérique européenne. L'objectif, il est simple, devenir indépendant des géants américains et chinois en matière de logiciels et d'IA. Astrée Olivier nous explique tout ça.
Il faut réduire la facture européenne en matière de numérique. Chaque année, l'Europe dépense 260 milliards d'euros dans des produits et services non européens. La Commission veut notamment entrer dans la course des semi-conducteurs, explique la vice-présidente de la Commission, Enna Verkunen.
Nous devons nous préparer à conquérir notre part du marché des puces liées à l'IA. On estime que les composants liés à l'IA représenteront plus de 70% du marché total des semi-conducteurs dès 2030. Dans notre plan d'action, nous nous engageons aussi à tripler le nombre de data centers européens dans les 5 à 7 prochaines années.
La préférence européenne sera aussi de mise. Les administrations publiques devront obligatoirement stocker leurs données dans des data centers présents sur le sol européen. Les commandes publiques seront aussi réalisées auprès d'entreprises dont la R&D et les emplois sont basés en Europe.
Nos usines fonctionneront grâce à des logiciels industriels européens. Nos hôpitaux pourront choisir des IA développées en Europe. Nos innovateurs pourront aussi les utiliser pour développer leurs idées et nos startups devenir des leaders mondiaux. Ici même en Europe.
Bruxelles veut aussi lier souveraineté technologique et numérique, mais la Commission a reporté son projet de label vert pour les data centers. À ce stade, le nucléaire français en est exclu, ce qui a provoqué une levée de boucliers.
Voilà, donc reportage signé, je le disais, Astrée Olivier. En gros, ce qui est en train de se passer, peut-être que vous allez évidemment commenter tout ce qu'il a été dit à l'instant, mais en gros, on passe d'une souveraineté numérique défensive à quelque chose de beaucoup plus actif, finalement. Réguler, c'est bien, mais il va falloir essayer de trouver nos propres briques, nos propres solutions dans le domaine du cloud, de l'IA, des puces et des logiciels. Attention, tout ça, ce ne sont que des propositions encore, hein, visiblement. Ces textes doivent être négociés par les États membres, le Parlement européen, avant de devenir loi. Donc, ça va prendre encore du temps, mais c'est intéressant. Qui commence sur ce sujet ? Christophe, tiens, allez, on y va.
Bah, la première chose, c'est que je pense que c'est bien de voir que l'Europe se saisit un peu plus du sujet. Bon, la réalité est quand même complexe puisque je crois qu'on investit, on a plus de 300 milliards de produits et de services technologiques qui viennent sur le marché européen de la part des acteurs américains, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de ce qui est des produits non informatiques. Donc c'est vraiment très très important, et que 80% de nos dépenses cloud dans les entreprises et même administrations, c'est des Azure, Google,
Amazon
etc. Et donc finalement il y a une énorme dépendance. Alors le problème, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui est positif, c'est qu'on se saisit de la chose, mais on va pas pouvoir être souverain du sol au plafond. C'est totalement illusoire. Donc, quand on parle des puces, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, attends, on va quand même pas bâtir un nouveau Nvidia. Et en fait, non, il s'agit de dire, bon, il y a des puces, par exemple, dans le domaine automobile, sur lesquelles on a les moyens. Oui. De faire fonctionner des usines européennes et des composants européens.
Et je
pense que c'est la bonne approche. Il faut avoir une approche un peu de tri sélectif par rapport à toutes ces dépendances. Finalement, la souveraineté, c'est pas d'être totalement indépendant, c'est de maîtriser ses dépendances. Donc, de dire, il y en a certaines, on oublie, on va pas, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est trop tard. Bon, quand c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là où c'est pas trop tard, on dit, privilégions les éléments, européens, donc par exemple les puces pour les voitures. Bon, ça, très bien. Mais là où c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, il y a quand même les régulations qu'il faut faire jouer. Donc le DMA, de ce point de vue, il sert à faire en sorte qu'il y ait la potentialité pour des acteurs européens de venir s'épanouir sur des écosystèmes autres. Mais pour ça, il faut leur garantir une certaine équité de marché. Donc je pense je regrette, c'est pas été encore assez renforcé là. Il faut définir un certain nombre de standards pour les données, ce qui relève évidemment des données extrêmement sensibles. Eh bien, on fait apparemment émerger une nouvelle norme qui est le IEUCS, qui est le norme de cybersécurité cloud européen. Mais quand on regarde un peu dans le détail, elle est beaucoup moins contraignante que le Secnum Cloud. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lobbying extrêmement fort d'un grand nombre d'acteurs et il faut mettre 27 pays d'accord.
Oui, d'accord.
Et c'est souvent sur un petit commun dénominateur qui est moins exigeant. Mais néanmoins, c'est un pas. Et donc, je pense que voilà, c'est la bonne approche. Ça prend malheureusement un petit peu de temps. Et ce qui me paraît essentiel, c'est aussi de mobiliser des fonds européens, on parlait tout à l'heure de la Deep Tech ou d'autres, sur les nouvelles technologies pour se positionner. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, la messe, elle n'est pas complètement dite sur l'IA et sur les agents. Peut-être que les LLM qui aujourd'hui prennent et les infrastructures IA qui prennent une grosse partie de la valeur, il y a aussi toute une partie de la valeur à gagner vers les agents. Et donc, on aimerait aussi voir l'Europe être un peu plus visionnaire et mettre des paquets plus significatifs d'investissement sur des technologies de demain et pas essayer de le faire uniquement sur les technologies sur lesquelles c'est déjà trop tard parfois.
Oui, d'ailleurs on l'évoquait ça il y a deux jours, hein, Fred, c'est 120 milliards sur la table pour tout ce qui est chipset en fait, hein, essayer de reprendre la main, de réindustrialiser.
Exactement.
De créer une usine, je crois, de chipset qui elle-même, à elle seule, coûterait 30 milliards, je crois.
Essayer de faire une filière, quoi.
une filière pour avec ASML, avec
parce que derrière, on fabrique plus de PC, mais on fabrique quand même des super calculateurs.
Exactement.
Ouais. Donc voilà, après,
pour l'automobile aussi.
Pour l'automobile, pour les lunettes, il y a plein de choses.
Philippe, ton point de vue ?
La Commission met le paquet. Bon, ça c'est bien. Elle le fait avec 10 ans de retard. Ça c'est moins bien. C'était quand même assez émouvant de se souvenir que c'est au moment de la crise Covid que subitement des dirigeants de différents grands pays européens se sont dit « Ouh là là !» Mais enfin, ont découvert dans une candeur confondante que 85% des puces à finesse de gravure très très étroite était fabriqué à Taïwan, et que Taïwan, c'était très très près de la Chine continentale, alors que tout ça existait depuis 20... Tout ça était sous nos yeux depuis 20 ans.
Ouais. Moi, il y a la tech, voilà. Mais il y a aussi toute la médecine. On se rappelle de l'épisode du paracétamol, hein. C'était pareil.
Oui,
hein.
Alors, c'est bien, c'est des textes, et comme ça a été rappelé, très justement, c'est des textes qui vont encore devoir être discutés, débattus. entre des pays qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément convergents, puisqu'on va retrouver le jeu habituel où l'Allemagne est toujours quand même assez pro-Intel. La France va pousser ses modèles d'IA. Les Pays-Bas vont protéger ASML comme la prunelle de leurs yeux. Et donc la convergence d'intérêts va être nécessaire pour pouvoir bâtir une indépendance commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on part quand même de très très loin, puisque le degré de dépendance aujourd'hui en termes de technologie, il est de l'ordre de 80%, avec des effets de bord. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps quand Broadcom a racheté VMware. VMware, c'est ce qui permet de virtualiser un PC et c'est utilisé par un très grand nombre d'entreprises. Et que Broadcom a décidé du jour au lendemain de multiplier les prix par, c'était quoi Christophe, 2,5, 3 ?
Oui, plus de 3.
Voilà. 3, oui. Donc, voilà, on a l'impression qu'on découvre que les clés de l'immeuble sont chez un serrurier étranger qui est très gentil, qui est très poli, qui répond au téléphone, mais qui peut changer la serrure sans prévenir.
Et alors que c'est chez nous.
Oui, voilà.
C'est
oui,
ça qui est terrible.
Non, mais c'est ça. Donc, bon, et puis il y a le deuxième oui, sujet, bon. C'est effectivement, tout le monde parle d'infrastructures, d'usines, etc. C'est très bien, on va construire des usines de semi-conducteurs. Est-ce que ça sera uniquement des semi-conducteurs qu'on a conçus nous-mêmes ou est-ce que ce sera une usine additionnelle pour un fabricant de semi-conducteurs américain ? Là, toute la question, elle est dans la captation de la valeur. Et pour moi, le sujet, il est là. C'est souveraineté numérique, ce n'est pas uniquement être capable de dire non aux Américains, c'est de savoir qui appeler.
Fred.
Je trouve très bien que l'Europe et tout ça. Le seul problème, c'est la mise en exécution. C'est-à-dire aujourd'hui, Quant, c'est plutôt français. Alors, certes, ils se sont
alliés. On va en parler après.
On en parle après.
Attention, hein.
Ouais. Parce que on était resté sur le
on reste sur le si
pardon,
tu veux là
j'étais parti moi
l'indépendance technologique sur les puces sur le cloud oui, etc sur les services numériques après on enchaînera avec la décision
j'étais parti sur compte
c'est pas grave
non mais le
il a toujours un coup d'avance Fred c'est
non mais
ça.
Le innovateur le souci c'est qu'on est une Europe à 27 et qu'on n'a pas tous les mêmes arguments c'est-à-dire que dans certains pays quand AWS va venir dire moi je vous mets un gros data center chez vous ben est-ce que ce pays votera? Et c'est un peu comme l'Eurovision. Est-ce que ce pays votera pour le projet, pour un autre projet européen? On l'a vu, hein, dès que Intel avait promis de s'installer en Allemagne, hop, on a entendu des petites levées de boucliers côté français. Donc c'est ça. Je trouve qu'il faut vraiment trouver. Pour moi, il faut choisir ses batailles. Il faut prendre 3-4 filières, enfin 3-4 verticales, et se dire, allez là, et on met tout le monde dedans. On parle toujours de l'Airbus, de la tech, ou je ne sais quoi. Mais voilà, il faut essayer de prendre ces quelques filières, qu'elles soient logicielles, qu'elles soient là pour le coup. Autour des composants. Voilà, l'IA, ça peut très bien être l'IA et la santé. Voilà, on va prendre l'IA et la santé. Et puis on déroule jusqu'où on peut travailler tous ensemble et avec des Anglais. Enfin, peut-être des Anglais, non, et des Allemands, des Suisses, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver et pas chercher tout de suite à avoir un grand plan global.
Je pense qu'il y a quand même globalement un contexte qui fait que ce que tu disais tout à l'heure, à savoir ce prix, cette tendance des Allemands à toujours privilégier plutôt les intérêts des Américains au regard des échanges commerciaux. Ça change ça, parce qu'il y a quand même globalement une prise de conscience avec le key switch, tout le monde a un petit peu peur. Voilà. Donc là, je pense que le terreau est plus favorable. Il y a des succès. ASML, on peut le considérer comme une sorte d'Airbus, puisque finalement, c'est quand même un géant mondial qui est dans une situation quasi monopolistique et qui est en Hollande. L'idée que tu suggères de dire on prend 3-4 sujets et à ce moment-là il faut que globalement la grosse difficulté c'est d'accepter qu'on va mettre le paquet à un endroit et qu'on ne va pas saupoudrer et pour ça je pense qu'on prendrait 4-5 sujets à 4-5 pays
la santé,
et chacun en prendrait un et on déciderait de mettre le paquet. Ça veut dire que si on décide qu'on fait les batteries dans le nord de la France, on n'affecte pas de financement ailleurs. Et qu'on dit, par exemple, les processeurs, c'est à tel endroit. Si c'est en Allemagne, ça veut dire qu'on va peut-être moins financer Kroll. Bon, c'est des décisions politiquement difficiles. Mais malheureusement, c'est la seule façon de pouvoir faire les choses.
Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire d'Iris Carré, donc, qui serait la constellation européenne.
Oui.
Bah, visiblement, l'Allemagne travaille sur un projet concurrent.
Oui. Et d'une autre génération, en plus. Une génération un peu plus avancée.
Voilà. Mais comment on va s'en sortir, en fait? Parce que, on voit que les batailles d'égo, parce que tout ça, c'est de l'égo.
Ça joue aussi.
C'est son précaré. On n'arrive pas à être un continent comme, par exemple, les États-Unis le sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des États, malgré tout. Oui. Mais quand il y a une décision qui est prise, elle est prise de manière, elle est prise à l'unisson. Là, pour nous, c'est d'une complexité incroyable.
Politique.
Et ça devient même une compétition.
T'imagines le politique qui va accepter de dire, tiens, les batteries, finalement, on va les faire dans le nord de la France, mais tu vas avoir les politiques allemands qui vont dire, ah oui, donc vous laissez ça. Et nous, on va dire, bah, nous, du coup, cette partie-là, je sais pas, les data centers, on va aller, on est bien parti chez nous avec l'investissement sur la banque, mettons un certain type de composants, de mémoire RAM, tiens, on va se faire de la mémoire RAM, on va laisser ça aux Allemands et aux Roumains, enfin voilà, on va laisser ça à l'Est. Mais t'imagines en France, tu vois, aujourd'hui, avec les politiques et tout ça, oui, qui vont dire, ça y est, je sens mal tout ça. C'est parce que ça va être de dire, ah oui, donc cette usine, on la laisse s'installer en Roumanie au lieu de la mettre en France. Là, pour un politique, ça va être compliqué, hein, d'accepter ça.
Mais il va y avoir deux sujets compliqués pour les politiques, à mon avis. Il y en a un premier qui est qu'ils continuent à proposer, en tout cas en France, une équivalence installation d'infrastructures égale création d'emplois. D'abord, les emplois, ça ne se crée pas, ça ne s'invente pas, ça répond à un besoin. Et il se trouve que le besoin d'emplois dans ce type d'infrastructure, c'est un très petit nombre d'emplois très qualifiés. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre la question du chômage. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le juge de paix, à la fin, ça va être le pognon. Et les Allemands sont dans une situation budgétaire qui leur permet de dégager des montants d'investissement considérables. En France, on est à l'os. Et une des difficultés, difficultés de Telsat aujourd'hui sur les projets Iris Carré, c'est que l'État français, qui était censé soutenir ce projet et le financer, n'a plus un rond. Quand tu te retrouves à gérer en parallèle des relations complexes avec tes deux grands partenaires naturels qui sont Airbus d'un côté et de l'autre Thales, qui eux ont des agendas complètement différents, ont des profitabilités sur d'autres segments. Thales croule sous les commandes, donc arriver à monter l'équation sans injection de capital, c'est horriblement difficile pour le patron de Telsat.
Je vous propose qu'on enchaîne avec un autre sujet intimement lié à tout ça, parce que l'Europe en ce moment, ils sont remontés comme des pendules. La dernière info sur ce sujet, c'est le Parlement européen qui débranche Google et le moteur de recherche qui va disparaître en fait des navigateurs, des fonctionnaires européens. Alors, je ne sais pas combien ça représente de personnes, en fait. J'imagine que c'est plusieurs milliers, un minimum.
Quelques dizaines de milliers, probablement.
Peut-être quelques dizaines de milliers. Donc, leur moteur de recherche, à partir de demain, parce que c'est demain que c'est mis en place, le DSI va avoir du boulot cette nuit, je pense. À partir de demain, lorsque ces fonctionnaires européens travailleront sur leur PC, ils auront comme moteur de recherche non plus Google, mais Quant.
Voilà. Par défaut. La question, c'est combien reviendront ?
Alors, c'est non obligatoire, c'est-à-dire que le gars, il se dit « Oh là là, c'est Quant ! Oh non, pas Quant !
Ça marche pas, je reviens.
Je remets sur Google. »
C'est que sur Edge et Firefox. Hein. C'est que sur Chrome, tu continues.
Voilà, tu peux continuer. Parce que tu peux avoir Chrome sur ton PC. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça va. Mais c'est presque symbolique, cette histoire-là. Mais vas-y Fred,
le symbole est fort quand même, c'est de dire on peut
cliquer, mais c'est pas nouveau Fred, ça fait des années qu'on connaît ça.
Nous on connaît ça en France, hein, puisqu'en 2018 c'est
combien d'administrations sont passées à quoi,
ministère des armées,
dans la douleur d'ailleurs, hein.
la DINUM en 2020 qui a dit à tout le monde qu'il fallait mettre par défaut le moteur Quant. Bon, là je pense que les gens utilisent beaucoup quand même, continuent beaucoup à utiliser Google, surtout que maintenant qu'il y a un Gemini qui vient se rajouter là-dessus. Mais moi, je pense que c'est plus le signal, parce que la chose, c'est de pas se dire est-ce que Quant est meilleur que Google. Non, Google est meilleur, plein de choses.
C'est
de se dire on est en train de travailler sur une souveraineté numérique. Et alors, comme le disait Philippe tout à l'heure, on s'y prend peut-être 10-15 ans trop tard. Mais bon, se dire que peu à peu on pousse des pions comme ça. On a eu les histoires des satellites l'air avec les fréquences satellites, deux tiers des fréquences satellites qui vont être en orbite basse, qui vont être réservées à des opérateurs européens ou des startups émergentes. Enfin, c'est en projet. Je trouve que peu à peu, on pousse des pions et puis on va finir par y arriver.
Philippe, Après Christophe.
Moi, vas-y, vas-y.
Ou Christophe, vas-y, vas-y, non, Christophe, et puis après Philippe.
Non, moi, j'ai cru que c'était un canular, hein, parce que je me suis dit, quand, tu veux, c'est une bataille, ils ont 15 ans de retard. Tu veux, je trouve que je comprends la symbolique, j'entends ce que tu dis, mais je trouve que le symbole, justement, je pense que ça décrit un peu la démarche. En plus, c'est pas du tout, dans la réalité, c'est pas obligatoire. Les gens vont pouvoir remettre comme c'était. Ça me paraît. Ça me paraît pas être la priorité. Si je devais pousser à l'utilisation, peut-être qu'il faudrait dire, vous n'avez plus le droit d'utiliser ChatGPT, vous devez utiliser Mistral. Ça aurait plus de sens, si tu veux, parce qu'on est quand même sur des technos nouvelles émergentes sur lesquelles il y a encore de la compétition. Oui. Là, ça me paraît un peu surréaliste et je pense que ça va même nous desservir parce que l'expérience, tu le dis, c'est moins bon. Moi, je ne connais pas bien Quant, mais je pense que les gens...
Tu devrais l'installer,
leurs habits. Je suis pas fonctionnaire européen. Hein.
Non, mais juste par curiosité
je devrais
technologique,
faire.
Tu devrais t'y mettre.
Il garde moins d'historique.
Voilà, voilà. Et puis, je pense que ça va faire un flop. C'est et toujours, je pense que ça dessert avec, un peu plus qu'autre chose.
C'est toujours avec Bing, Quant. Parce que, rappelons
non,
que le moteur technique de Quant, pendant un moment, c'était Bing.
Non, mais ça, c'est un premier point. C'est que la clé dans un moteur de recherche, alors il y a tout l'habillage, l'ergonomie, etc., la protection des privés, et ça, c'est quand tu as fait un travail tout à fait louable. Mais le nerf de la guerre, c'est le moteur, et le moteur, c'est l'index. C'est-à-dire la capacité d'aller indexer le web proprement.
Bien
et
sûr.
Pendant très longtemps, quand tu avais un accord avec Microsoft sur Bing, qui a été.
Ça, c'est à cause de Christophe, hein, oui, j'en suis sûr. C'est à cause de lui.
Oui, après moi. C'était un compte. Oui, ça a rapporté beaucoup d'argent. Ce contrat a été dénoncé ou modifié. Donc, Quant aujourd'hui est allié, je crois d'ailleurs, à un de ses concurrents français qui est devant lui, qui est Ecosia, parce que, on peut rappeler les chiffres, hein, Quant, c'est 0,92% de part de marché en France.
Ecosia, c'est pas les Allemands.
Ecosia, c'est. Oui, c'est peut-être les Allemands, pardon, j'ai dit une bêtise. Ecosia, c'est 1,29.
Ils ont signé un accord avec Ecosia.
Mais ils sont en train de construire un index commun.
Stan.
Mais qui n'est pas encore complet. Donc,
ça veut dire que c'est moins efficace, ça marche moins bien.
Peut-être. Moi, toujours en termes de chiffres, parce que pour moi, il n'y a que ça qui compte à la fin. Ce serait intéressant, c'est d'avoir une publication par le Parlement européen dans un an, de savoir quel est le pourcentage effectif d'utilisation. Parce que jusque-là, c'est comme si à l'Assemblée nationale, on remplaçait le coca par une limonade artisanale. À la buvette, personne n'est obligé d'en boire, mais au moins tout le monde comprend le message. C'est un message. À ce stade, il faudra qu'on regarde s'il a été suivi.
Tu me posais la question, est-ce que ça le compte? Je te dirais, j'utilise quasiment plus Chrome, j'utilise Perplexity. Enfin, j'utilise des outils. Je suis passé à une autre génération d'outils.
Oui, tu es passé à la vitesse supérieure.
Tu vois, je trouve que c'est... je comprends, c'est symbolique, mais je ne suis pas sûr que ça sert. J'entends que ça peut être potentiellement un message, mais j'aurais préféré que ce soit sur des choses un tout petit peu plus... dans la nouvelle vague des technologies.
Oui, puis moi j'en reviens toujours à mon histoire des 27 pays. Bon, tu as Ecosia qui est allemand, ils ont signé, ils sont alliés avec Quant pour faire un moteur qui s'appelle Stan, mais bien. Tu as Metager aussi, ou Metagir, enfin en Allemagne. Les Pays-Bas, ils ont aussi un moteur de recherche. Enfin, tu vois, tout le monde, ils vont dire, pour qu'on prend Quant, là aussi, il va falloir voir comment tout ça se...
Alors, il y avait un truc qui s'appelait Exalead aussi à l'époque, ça n'existe plus.
Ah, Exalead, ça a été racheté par Dassault Systèmes.
C'était un moteur de recherche. Mais en fait, c'était un moteur d'indexation extrêmement puissant et Dassault Systèmes l'a acheté pour faire de l'indexation.
C'était plus de l'intranet. Les anciennes d'Atalie, de Exalead, alors François Bourdon qui est resté chez Dassault, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais les anciennes d'Exalead sont ceux qui ont monté Dataiku.
Ok.
Toute la bande.
Là encore, on se rend compte qu'on avait les talents finalement, si on avait appuyé sur le bon bouton au bon moment.
Attends, ce que dit Frédéric et moi me semble hyper pertinent, c'est...
Pour une fois.
Parce que Frédéric va au fond, il n'a pas touché. Non, mais justement, on avait des talents, ils ont compris que c'était une bataille sur laquelle c'était pas la peine de continuer à envoyer des gens se faire massacrer. Et ils sont très intelligents, ils ont très intelligemment changé le terrain de jeu, les uns en partant sur de l'indexation documentaire très puissante en entreprise, les autres montant DataIQ, ils ont gardé cette fibre et cette compétence, mais ils sont allés l'appliquer à des endroits où personne n'était encore allé.
Et il y avait un concurrent, je suis en train de le chercher, qui a été racheté par Chaps Vision. Un concurrent français, c'était...
De moteur de recherche
d'Exalead.
D'Exalead. Enfin,
moteur de recherche pour entreprise. Hein. Exalead, c'était quand même pour entreprise.
Non, les moteurs de recherche, ça a eu des vies quand même. Souvenez-vous d'Alta Vista qui, à un moment, a été...
Cinequa.
Cinequa.
Mais Jean Ferré, exactement. Ferré, qui est parti chez Microsoft après, qui est revenu. Et
Jean Ferré.
Oui, Jean Ferré.
Très bien.
Et qui... Je vois.
Non.
Quelle est belle ma montagne.
Stop. Non, parce que là, on va remonter dans l'histoire des moteurs de recherche jusqu'en 1945.
Non, non, mais
le premier moteur de recherche.
Non, mais on en avait deux très bons, Sinequa et donc Exalead racheté par Dassault Systèmes.
Oui, oui.
Et Sinequa a été racheté par une très belle entreprise aujourd'hui qui s'appelle ChapVision.
D'accord.
Et qui a un bon exemple de consolidation d'acteurs. Oui.
Pour être un acteur.
ChapVision qui est un peu le concurrent de Palantir finalement.
Oui, qui a cette ambition-là. Il a des briques qui ressemblent à Palantir, des briques de cybersécurité.
Le dirigeant, il est incroyable.
Oh là là, mais que de savoir, que de connaissances sur ce plateau.
1940, c'était les pages blanches et les pages jaunes.
Mais bien évidemment.
On avait des moteurs de recherche.
Mais bien sûr. Merci, en tous les cas, pour ce grand moment. Vous savez quoi, on va marquer une petite pause et revenir pour cette deuxième partie du débrief de l'ActuTech dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, avec toujours les maîtres Frédéric Simotel, Philippe Devost et Christophe Holnet. À tout de suite. Merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, il est 20h pile en ce mercredi 3 juin. Merci d'être là, c'est Tech & Co, la quotidienne, à la radio, à la télé. Et vous le savez, chaque soir, on est en direct de 19h30 à 21h pour commenter l'actu tech. Avec ce soir, sur le plateau, toujours Philippe Devost, Christophe Honnet et Frédéric Simotel. Si vous êtes avec nous à la télé, vous les voyez, ils apparaissent comme par magie grâce à notre truquiste Chris qui est tellement fort. Regardez-moi ça, c'est superbe. Vraiment.
Depuis que Paris a une double étoile, il est sur un nuage.
Il donne le maximum de lui-même. Plus sérieusement, les amis, je vous propose maintenant de nous intéresser au quantique avec la start-up Qobly qui confirme une levée de fonds de 115 millions d'euros. Un pari réussi pour le spin-off issu du CEA Leti qui va commencer la commercialisation de son ordinateur quantique. Et sa fondatrice, Maud Vinet, était dans Good Morning Business ce matin. Quelques très choisi tout de suite.
Cette levée de fonds, elle marque la transition entre démonstration technologique et exécution industrielle. Nous allons commercialiser nos ordinateurs quantiques. Ils seront disponibles sur le cloud à partir de fin 2026 via OVH, acteur français. Et donc, cette levée de fonds va nous permettre à la fois de continuer la R&D et augmenter la performance de nos ordinateurs quantiques, accélérer l'industrialisation et, on vient de le dire, de passer à la phase commercialisation et à l'expansion internationale.
Bravo à Qobly. On est d'accord.
Exactement.
115 millions d'euros.
Il rejoint les Pascal, les Candela, Alice et Bob,
etc. Vous connaissez Qobly ou pas?
Moi, non, je ne connaissais pas.
Non?
Je ne connaissais pas. J'ai découvert grâce à l'émission. C'est super d'avoir. D'abord, le CEA Leti est connu pour quand même faire émerger des très beaux projets de recherche qui se trouvent aussi, qui essaimaient en start-up qui réussissent. On confirme le fait qu'on a une vraie capacité d'innovation dans le quantique, avec un certain nombre d'acteurs, soit Candela, Alice et Bob, etc. Et on arrive à lever des fonds dans centaines de millions. La question demeure sur les étapes d'après. Quand on voit aujourd'hui les financements des projets, mais il faut aussi qu'on ait cette capacité à avoir des fonds, et notamment européens, pour le faire. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans leur approche, c'est que ils apportent une brique, une solution potentielle à la capacité de passage à l'échelle du quantique. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que chaque ordinateur quantique ou chaque puce, enfin, c'est une œuvre d'art.
En plus, ils ont tous des technologies un peu différentes, tu vois.
Voilà, et qui sont capables de.
C'est d'ailleurs des paris et des destinations, on va dire, assez courageuses, parce que on ne sait pas trop où on va. Hein. C'est assez exploratoire, cette technologie. Il y en a peut-être une qui sera la bonne, et peut-être même qu'on ne l'a pas encore explorée. Donc, c'est beaucoup d'argent pour des résultats qui sont pas sûrs à 100% de porter leurs fruits. Enfin,
intéressant, c'est que leur technologie permet d'imaginer et de concevoir des puces quantiques, enfin des micros, des processeurs quantiques sur des infrastructures de
silicium.
Sur le silicium et les infrastructures existantes. Donc, c'est intéressant parce que ça permet évidemment de passer à l'échelle, de diminuer le coût et puis de pouvoir
utiliser du silicium et donc des infrastructures existantes, ce qui pour nous en Europe est potentiellement une bonne nouvelle.
Oui, c'est ce que dit Maud Vinet ce matin en matinale. Elle dit oui, les procédés de fabrication, on les a déjà. Donc maintenant, après, il faut lancer. Après, il faut trouver les clients. Enfin, faut aller.
Oui, et puis il faut que le quantique réalise ses promesses, à savoir parce qu'on parle de la passage à l'échelle, mais aussi la stabilité des systèmes qubits pour pouvoir passer à l'échelle et avoir une fiabilité, enfin tous les challenges qu'on connaît autour de quantique qui restent aujourd'hui des challenges.
Ils ont des ambitions assez fortes hein, puisqu'ils prévoient de sortir leur premier ordinateur quantique d'ici la fin de l'année, qui s'appellera Alloy, A2LOY.
D'accord.
Voilà comment on prononce Alloy ou Alloy, qui pourra servir par exemple pour la recherche notamment. Philippe Cobly.
C'est très intéressant, comme disait Frédéric, de voir que la France maîtrise la recherche et l'exploration de plusieurs filières très différentes en matière d'ordinateur quantique. La deuxième chose que je trouve intéressante dans cette entreprise que j'ai découverte grâce à vous, c'est le fait qu'ils sont le pari qu'ils font est moins un pari de science dure ou de, enfin c'est moins de la physique fondamentale, mais ils sont déjà plus, enfin ils résonnent en tout cas en termes de processus et comme tu le disais Christophe en termes de d'industrialisation, et c'est ça qui leur permet à mon avis d'aller assez rapidement. Sans limite sur le matériau puisque c'est du silicium et que on en a a priori sous les pieds, donc tout va, enfin sous les pieds et sous le pied. Je trouve que le pari est intéressant. Et puis c'est une très belle levée de fonds, surtout pour une série A, c'est-à-dire un premier vrai financement. Donc c'est une belle aventure.
Ouais, moi j'ai eu quelqu'un au téléphone cet après-midi qui me disait quelque chose de marrant. Il me disait, écoute, j'ai l'impression qu'on se retrouve comme il y a 15 ans. C'est-à-dire que les fondamentaux sont là, ils sont validés, les fondamentaux techno. Maintenant, c'est le passage à l'échelle et les capacités d'industrialisation. Alors, ce qui est intéressant dans la levée de fonds de Cobly, c'est que si on regarde un peu les fonds derrière, donc il y a BPI France, il y a un fonds européen EIC, il y a Air Liquide, il y a ST Micro. Oui. Donc, ça veut dire que derrière...
ST Micro, je crois, va participer à la fabrication du processeur.
Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des usines, des chaînes de fabrication, des capacités d'industrialisation.
Oui.
Donc, ça,
c'est... Il y a tout un écosystème autour.
Ouais. Ils n'ont pas juste pris l'argent, puis dire, bon, après, on essaie de se débrouiller. Donc, je trouve qu'il y a ça. Le fait, comme on l'a dit, qu'ils soient sur silicium, ça veut dire qu'ils vont avoir des procédés intéressants. Et puis, voilà, puis ça fait partie de nos fleurons. Il y en a un dont on ne parle pas, c'est C12 aussi. Enfin, c'est pour ça que j'ai... Y en a, moi, c'est les cinq que je connais, principalement Candela, Pascal, C12, Cobly et Alice et Bob. Mais on voit que chacun est en train d'avancer sur son... Alice et Bob a fait des annonces aussi récemment. Pascal continue aussi à travailler, notamment avec des industriels comme CMA CGM, le propriétaire de BFM Business, qui a investi dans Pascal. Ils travaillaient avec Aramco. En plus, ils commencent tous à avoir des... Donc, c'est quoi les usages? C'est du chiffrement post-quantique, c'est de la simulation. Voilà,
c'est peut-être quelque chose qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on parle souvent d'ordinateur quantique, et d'où quand on entend ordinateur, on pense à la machine qui sait tout faire, alors qu'en fait, il s'agit de machines
qui sont capables de travailler
sur des cas d'usage très spécialisés.
C'est pas la prochaine génération de l'informatique, c'est un domaine à part pour des...
Oui, absolument.
Parce que ça sait pas tout faire, en fait.
Ça sait faire infiniment mieux que les ordinateurs classiques, ça sait résoudre infiniment mieux et infiniment plus vite que les ordinateurs classiques une petite classe de problèmes qui sont des problèmes fondamentaux, comme la cryptographie. Mmh. Mais quand je dis une petite, c'est comparé à la résolution de tous les sujets universels, tels qu'on le voit dès qu'on parle à ChatGPT et qu'on lui demande tout et n'importe quoi. On est vraiment sur de la résolution de sujets bien précis, mais avec des performances qui sont foudroyantes par rapport à l'informatique classique.
Ouais. La simulation, le chiffrement post-quantique.
La santé aussi, je crois. Hein.
Oui, c'est dans la simulation.
Oui, simulation.
D'accord. Et dans l'optimisation aussi, par exemple, je reparle de CMA-CGM, c'est l'optimisation de trajectoire. Savoir, tiens, par rapport à des courants marins, à des choses comme ça, comment on va...
Il faut un ordinateur quantique pour piloter un bateau, maintenant.
Mais il y a tellement de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte que pour trouver les meilleures trajectoires...
Oui, pour prédire les courants, les vents, la météo, etc.
Les machins,
D'accord.
Enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est un exemple un peu standard. Puis il y a les capteurs quantiques aussi qui sont l'une des applications. Donc on voit...
Les communications quantiques aussi, qui sont inviolables.
Ça aussi, c'est quelque chose...
Mais là, on est loin de. C'est pas Cobly qui va travailler.
Deux qubits qui peuvent se comporter exactement pareil à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. va savoir quoi. Ouais.
Et si jamais tu interceptes, tu détruis l'État.
Exactement.
Et donc tu sais que la communication a été perturbée, interceptée.
Eh bien, dites-moi, on se croirait dans Interstellar un peu, oui, non, quand
absolument.
Même.
Non, puis c'est vrai qu'il y a 5 ans, on parlait essentiellement de recherche, et là, ça y est, on commence à dire, on arrive à des débuts d'industrialisation. Mais attention, en face, il y a aussi des Google IBM. Hein,
avec des moyens gigantesques.
Voilà.
Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, parce que c'est vrai que quand on évoque le quantique, en général, c'est un sujet, comment dire...
Je pense toujours à cette phrase de Bernd Banke, qui, sur les taux, quand il expliquait les taux d'intérêt, il disait... si vous avez compris, c'est que je me suis bien expliqué.
Et j'ai toujours cette impression-là sur le quantique.
Hein. Oui, sur le quantique, c'est passionnant, mais c'est très abstrait.
Moi, j'avais trouvé une analogie. Pour le cas de Kobe, j'avais trouvé une analogie qui me semblait pas mal. C'est que le quantique, c'est comme un four très spécial, le grand chef de cuisine, mais qu'on ne sait pas installer dans ses cuisines parce qu'on n'a pas les cuisines qu'il faut. Et là, Kobe propose une solution qui se branche sur la prise qu'il y a dans ta cuisine.
Oui, qui standardise un peu le...
Voilà, qui s'approche. Proche d'une utilisation avec des moyens existants.
Voilà, et dès que tu parles de cuisine, là, tout le monde comprend. Enfin, moi, personnellement, je comprends.
C'est pas plus clair. Hein.
On enchaîne avec un autre sujet concernant Microsoft. Microsoft qui, vous le savez, s'émancipe d'OpenAI, ou alors OpenAI s'est émancipé de Microsoft, ça c'est tout dépend de quel côté on se place. Microsoft prépare en fait ses solutions d'IA. Christophe, tu as un peu creusé le sujet. Explique-nous en fait, ce que Microsoft est en train de mettre en place en termes de stratégie d'IA.
Microsoft, comme la plupart des acteurs logiciels, fait face un peu à une menace existentielle avec l'arrivée de l'IA. On voit bien, tous les acteurs sont chahutés et on se pose des questions avec l'IA générative. Est-ce qu'on aura besoin de logiciels ? Donc, ils sont face à... Donc, pour Microsoft, ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils ont réussi l'interface graphique avec Windows à l'imposer, l'Internet, Azure, ils ont réussi un retournement... Et là, ils sont de nouveau face à ça. Et en regardant cette rafale d'annonces où on est un peu perdu, je pense que je retrouve quand même des thématiques et un ADN qui existe. C'est-à-dire que face à ça, la première chose, c'est qu'ils s'étaient appuyés sur OpenAI pour rester, je dirais, dans l'écosystème AI. Ils s'en émancipent autant qu'à mon avis, OpenAI s'émancipe.
C'est lui qui l'a repéré aussi en 2017, Satya Nadella.
Il a dit, oula, eux, on va les surveiller.
J'avais expliqué précédemment que je pense que Microsoft a beaucoup gagné du deal de sortie. Là, ils enfoncent le clou en développant leur propre modèle et finalement en commoditisant le LLM, en disant la valeur, elle est plus sur les agents. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les investissements en dizaines de milliards, il va falloir avoir un retour sur investissement.
Voir sur la couche
d'infrastructure. Le retour sur investissement, il est sur ASML, sur Nvidia. Mais qui va récupérer la monétisation de tout ça ? Et c'est la vision de Microsoft, c'est pas le LLM tout seul, c'est les agents en tant que tels. Donc, ils ont un énorme atout, c'est toutes les données, la base installée qu'ils ont chez les clients. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commoditisent, ils développent leur propre modèle IA. Donc, ensuite. Ils se disent, on avait copilote, mais ça marche pas très bien. On passe de le copilote à l'autopilote, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on imite un peu Open Cloud, toutes ces choses où on dit, on va pouvoir confier les agents. Ils vont même un cran plus loin en disant, vous allez avoir un sorte d'alter ego, de chief of staff de vous-même, qui s'appelle Scout ou Scout en anglais, où vous allez pouvoir lui poser les questions. Il va agir comme un utilisateur. Il va pas être à côté de vous, mais il va être dans Windows.
Il le met dans Teams, c'est tout ça.
Il est au cœur de Windows, il a accès à tous vos outils. Et d'ailleurs, Microsoft le considère comme un utilisateur vu de l'IT. Donc, je pense qu'on va bientôt lui demander de payer une licence aussi. Donc, on a ça. Donc, on capitalise sur la part de marché qu'on a. Donc, on enferme l'utilisateur dans ça. Mais néanmoins, on se dit un jour ou l'autre quand même, OpenAI ou Anthropic vont vouloir accéder à ces données. Donc, on met un péage. Donc, c'est WorkIQ. Il s'appelle pas ça comme ça, mais c'est un péage où les API, au début, on peut taper dedans. Puis, petit à petit, on va le dire, maintenant, c'est payant. Il faut pas consommer autant. Donc là, on s'assure. Et puis derrière ça, on envoie un bon écran de fumée de ce qu'on aurait appelé en bon vieux temps du vaporware, c'est-à-dire un nouvel écran, un nouvel appareil.
Oui, j'ai vu qu'il y avait du hardware
aussi. Dont la philosophie est l'interface utilisateur prédéfinie, ça n'existe plus.
Ouais.
L'interface, elle est contextuelle. Si je suis une infirmière et que j'ai un badge électronique comme ça, si je donne un compte rendu, tout de suite,
c'est le bouton compte-rendu qui s'affiche avec l'interface, ce modèle. Et donc, ça,
c'est-à-dire que l'IA adapte l'interface selon ce qu'on est en train de dire.
C'est-à-dire que ce qu'on a vécu pendant des dizaines d'années, à savoir que c'est l'utilisateur qui doit s'adapter au logiciel, là, c'est le logiciel qui s'adaptera. Donc, ils prennent un cran d'avance sur ce sujet-là et on en est très loin, mais ça permet aussi de, déstabiliser potentiellement.
Et c'est assez exploratoire et c'est assez intéressant.
Et donc, je retrouve une approche finalement, même si la société a changé, etc., mais qui vise je capitalise sur mes positions fortes et j'essaie de me positionner sur la tranche de valeur ajoutée sur laquelle je vais pouvoir aller récupérer l'essentiel de la monétisation.
Voilà, là on est vraiment 100% B2B, hein, oui. Tout ce dont oui. on vous parle là, hein, c'est vraiment pas pour les particuliers.
Et d'ailleurs tout ça, pourquoi on parle de ces annonces ? Parce que c'était la grande conférence Build, hein. On est dans la période des grandes conférences de printemps, d'été, de tous les... On a la Google I.O., on a WWDC dont on parlera lundi soir ici d'Apple. Là c'est la grande conférence développeur de Microsoft Build. Mais moi, je trouve que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est en train, il y a un élément qui est en train de revenir en force, c'est Windows. Windows, ça va devenir le nouvel OS pour les agents. Et je trouve que Microsoft, là-dessus, il joue très... J'ai regardé un petit peu sur YouTube ce passage-là de Satya Nadella. Et il replace Windows au centre du jeu. En disant, ça va être l'OS pour les agents. Donc là, il y a un truc assez intelligent. Alors derrière, avec son Scout, là, ses modèles de raisonnement, etc. Il ne met pas OpenAI de côté. Il me dit, ils s'intégreront comme les autres, mais ils seront peut-être obligés de payer.
Oui, voilà, c'est ça.
Et puis, n'oublions pas leur base installée, quoi. C'est quand même 85% des entreprises aujourd'hui qui sont installées Microsoft. Donc le jour où ça déploie, ça déploie.
Philippe, un mot là-dessus ?
Deux remarques. La première, c'est que c'est une démonstration à nouveau de la puissance et de Microsoft et de la vision et de la culture de Satya Nadella, puisque c'est de l'intégration verticale de bout en bout, jusque dans les puces. Là, pour ceux qui nous regardent à la télévision, il y avait également des présentations de puces. Donc Microsoft conçoit ses processeurs, donc maîtrise toute la chaîne de valeur. Bon, OpenAI, ils ont jusqu'à 2030, mais 4 ans, ça va passer relativement vite. Pour moi, l'annonce qui m'a le plus intéressé, c'est Scout. Comme tu le disais avec beaucoup de malice, le fait que Scout soit vu comme un utilisateur et donc ait son propre compte avec les effets de licence, c'est amusant. Pour moi, il va y avoir des questions assez intéressantes à se poser sur le plan juridique. C'est-à-dire que le jour où Scout te donne un conseil sur un sujet ou prend une décision, organise une réunion à ta place et je sais pas ce qui était prévu ou c'est pas ce qui était voulu, qui va se faire engueuler?
Et si tu quittes l'entreprise, qu'est-ce qui devient ton scout là? Est-ce qu'il appartient?
Il pleure. Il démissionne. Il se détruit.
Il part en burn-out.
Ouais.
Scout en burn-out. Non, le sujet de la sécurité et des risques associés, je l'ai creusé un petit peu et passe en détail. Bon, en disant visiblement, il y a une forme de sandbox au début qui est développée pour vérifier, mais après il y a quand même quelqu'un qui appuie sur un bouton pour que ça marche et effectivement avoir un agent qui effectivement prend les décisions pour toi, ça donne ils sont forcés à ce moment-là d'avoir une vraie réflexion de sécurité extrêmement forte et donc une intégration encore plus forte à l'infrastructure Azure, à Entra ID.
Je pensais pas tellement à la sécurité sur le plan technique, je pensais à la sécurité juridique des utilisateurs.
Oui, j'ai compris.
Ouais. Ça, Microsoft, ils sont forts aussi là-dessus. On parlait des données, la sécurité, c'est partie des gros acteurs.
Belle transition, on va parler de juridique encore une fois et de tech. Et de voitures autonomes. Ce qui est intéressant avec le véhicule autonome, c'est que vous savez, il y a toujours ce débat qui est responsable quand on conduit et qui est responsable quand on a un accident. Vous savez que Tesla ne se mouille pas. Tesla, leur philosophie est simple. À partir du moment où vous enclenchez le bouton du système autonome, le FSD, vous devez tenir le volant parce que vous êtes responsable de tout ce qui arrive, même si la voiture s'encasse dans un mur toute seule. Vous êtes responsable. Ce qui est intéressant, c'est que BYD, qui est l'un des gros concurrents de Tesla, lui, va à contre-courant avec une décision qui est très intéressante. C'est le premier constructeur, en fait, à couvrir intégralement les accidents. C'est-à-dire que ils disent, nous, on est responsable pendant un an, hein. Je tiens quand même à le préciser, c'est la première année.
Et puis c'est en Chine pour l'instant.
Et c'est en Chine.
C'est la première année.
Effectivement.
Mais c'est l'année pendant laquelle tu n'oses pas lâcher le volant.
Parce que tu as peur.
Et uniquement sur certaines fonctions. Enfin voilà, il y a quand même un...
Exactement. Avec en plus le dernier système qui s'appelle God's Eye, le 5.0. Mais en gros, voilà, vous achetez une BYD, vous cochez toutes les cases, vous êtes en Chine, etc. etc. Si vous avez un accident durant la première année en conduite autonome, eh bien, c'est BYD qui paye. Voilà, c'est pas vous, vous n'êtes pas responsable. Je trouve ça intéressant parce que, ça a fait réfléchir tous les constructeurs automobiles, parce que là, avec ce coup de pied dans la fourmilière, ça va donner forcément des réflexions sur tous les constructeurs auto, et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Qui commence ? Philippe ou Christophe, dites-moi.
Vas-y Philippe.
Moi, je suis en train de rechercher parce que j'ai pas assez préparé. Je sais que BYD revendique 200 millions de kilomètres parcourus par sa flotte de voitures tous les jours. J'étais en train de chercher le chiffre de Tesla, le chiffre équivalent, parce que pour annoncer quelque chose comme ça, il faut avoir sacrément confiance dans la capacité d'auto-apprentissage de l'ensemble de ces voitures, dans la capacité de mise à jour, mais ça, BYD, enfin les Chinois savent faire aussi bien que Tesla sur ce sujet maintenant. Le déplacement que je trouve très intéressant et très intriguant de la part de BYD, c'est que BYD devient son propre assureur. Parce que jusqu'ici, à la fin, le juge de paix sur toutes les questions de responsabilité dans tous les domaines d'application de l'IA, ça sera l'assureur qui décidera de prendre ou de pas prendre. De dire ça c'est assurable, ça l'est pas. BYD prend le sujet de vitesse. Alors, c'est limité, je crois, au périmètre strictement de la Chine.
Les déplacements urbains aussi.
Et puis, ils disent ils pourront aller vérifier les données pour voir si tout a été bien respecté.
Oui, bien sûr.
Mais néanmoins, ils font ce mouvement de se dire je deviens assureur pour apprendre peut-être ce marché, cette activité-là.
C'est un joli coup.
Je fais juste une petite parenthèse. Si vous nous regardez en image, vous verrez passer les porte-conteneurs. Enfin, ils construisent leurs propres porte-conteneurs. BYD, on les voit à l'écran.
Pour transporter leurs voitures.
Ils vont en construire 6 ou 7 pour transporter plus de 9000 voitures. Si vous regardez en télé, vous les voyez apparaître derrière. C'est absolument.
Mais ils vendent de la confiance et d'ailleurs, dans les assurances, ils assurent le dommage aux personnes, les frais médicaux, etc. Donc c'est vraiment.
La confiance, ça devient l'argument commercial. Tu sais, peu à peu, on est arrivé. Avant, c'était le moteur, 6 cylindres en V, voilà, ça freine bien, etc. Après, on a commencé à parler du multimédia. Voilà, vous pouvez connecter votre téléphone, vous avez tout la partie navigation et tout ça. Et aujourd'hui, alors, il y a la partie électrique, évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est la confiance. Il va maintenant avec nous.
Question, excuse-moi, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que BYD souscrit une assurance lui-même ?
Ah, bah, certainement.
Est-ce qu'ils se disent, OK, bon, on ne prend pas d'assurance ?
Non,
on part du principe qu'on va avoir statistiquement, tant de millions d'accidents tous les ans sur tout notre parc automobile, et finalement c'est des dépenses marketing.
Il doit y avoir une assurance.
Ils ont certainement une assurance spéciale qui a été conçue, mais encore une fois, c'est sur la Chine uniquement.
Oui, je ne connais pas le marché chinois d'assurance. Voilà, c'est peut-être très différent.
Je peux penser que c'est le cas. L'autre chose, c'est qu'il y a certainement des petite ligne dans le contrat, il y a ça dans de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est le message marketing, parce que ce qu'on retient, la une, enfin, c'est le message majeur, c'est ben voilà, BYD prend toute la responsabilité quoi qu'il arrive. Donc c'est une façon de la meilleure démonstration de confiance, c'est finalement d'accepter d'en payer les erreurs. Et vis-à-vis de, je pense que aussi il y a c'est aussi un dans l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a eu notamment aux États-Unis ou en Europe par rapport à Tesla, on se dit BYD, il y avait historiquement une image de la construction des acteurs chinois qui était de moindre qualité. Je pense qu'ils ont bien progressé là-dessus. Et là, quelque part, ils ont un différenciateur sur un élément vraiment très important.
Quand on y réfléchit, c'est quand même important dans le secteur. Je trouve cette annonce, elle est
Important parce que c'est pour ça que je voulais qu'on en parle.
Ça va mettre la pression sur les...
Mais ouais, je trouve que ça met la pression. Non, mais ça met la pression en fait sur les constructeurs. Ça met la pression aussi sur les assureurs,
bien sûr,
qui pour l'instant ne se mouillent pas avec ce truc qui va leur péter la figure un jour ou l'autre. Ça c'est clair. Et je trouve que BYD là,
et ceux qui font le logiciel,
avance.
Tu vois, ceux qui font le logiciel aussi. Tu vois, le logiciel de niveau 3, niveau 4,
évidemment.
Et donc, je trouve que là, c'est un signe.
Je pense
qu'encore une fois, c'est
condamné. C'est la conduite assistée en cycle urbain et le parking autonome. Hein, donc, le message envoyé aux concurrents, il est redoutable.
Ah ben, pour moi,
c'est chiche.
C'est une attaque indirecte ou directe sur Tesla. Hein, vous faites comme ça, nous, on a entièrement confiance en nos IA. Regardez.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont confiance aussi parce que, comme tu le disais, Philippe, il y a un nombre de kilomètres parcourus et que maintenant, la capacité d'apprentissage des systèmes à base de caméras. Ils ont des LIDAR ou pas, BYD? Non, ils ont des caméras comme...
Je pense qu'ils ont des LIDAR.
Oui, ouais, ils ont des LIDAR. Bon, enfin, tous ces actes ont une capacité d'apprentissage pour pouvoir, évidemment, de réagir. Ils ont une meilleure confiance dans leur capacité à éviter les accidents.
Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on évoque un autre sujet, alors qui est intimement lié aussi aux voitures autonomes. C'est non pas voitures robots, mais des robots humanoïdes, tout simplement. Et il y a quand même un vrai accord entre tous les investisseurs et les industriels en disant demain, ça va être le nouvel Eldorado technologique, les robots humanoïdes qui vont transformer l'industrie, mais aussi les foyers, parce que dans la prochaine décennie, on achètera des robots humanoïdes comme on achète aujourd'hui peut-être une voiture ou un scooter, etc. Et ces robots, alors évidemment, seront dans les usines, ils le sont déjà, mais peut-être que demain, ils seront à la maison, ils vous rendront un coup de main, ils feront le ménage à votre place, des tâches ménagères, etc. Ou peut-être qu'ils pourront accompagner les personnes âgées. Évidemment, c'est pas les constructeurs de robots qui disent ça, hein. C'est vraiment les investisseurs, qui disent...
Ils mettent un vrai pari, c'est le vrai pari
des investisseurs. On met un ticket là-dessus, dans 10 ans, ça va inonder le monde et le marché. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rapidement, il nous reste 3 minutes.
3-4 minutes. Là encore, il va falloir faire attention aux Chinois, parce que c'est les Chinois qui sont le plus avancés. On le voit chaque année au CES. On a beau voir notre Tesla, dans le monde occidental, Tesla avec Optimus. Mais tout le reste, Boston Dynamics, c'est avec SoftBank, donc là, on est un peu plus vers le Japon. Mais Figure AI, OneX Technology, ce sont tous...
Et Boston, c'est Hyundai, en plus.
C'est Hyundai, tu as raison.
Peut-être que SoftBank a des parts,
non, tu as raison.
Mais c'est Hyundai.
C'est SoftBank, et puis ils ont revendu à Hyundai, mais en fait, c'est asiatique. Pour moi, le gros sujet, ça va être une domination chinoise, parce que là, des robots chinois chez soi, c'est une autre histoire.
Philippe.
Je le dis de temps en temps quand j'ai la chance et l'occasion d'être sur ce plateau. La Chine a appris en 20 ans à fabriquer des objets de très haute technologie en très 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 grande quantité. Moi, il y a deux sujets qui me fascinent avec les robots humanoïdes. Le premier, c'est qu'on se demande souvent pourquoi c'est des robots humanoïdes. Pourquoi ils ont cette forme-là. Oui. Et la réponse pour moi la plus simple, c'est qu'en fait, le monde qui nous entoure a été fait pour notre taille. Et que donc, si on veut substituer des aides au plus grand nombre avec un format générique, en fait, on arrive à l'humanoïde. Et puis, pour moi, il y a une très, très grande question, mais là, qui est plus économique, c'est que c'est très bien de remplacer des gens qui travaillent par ces robots, des aides à domicile, etc., etc. Sauf que ces robots, ils ne paient pas de cotisation, ils ne votent pas, ils ne consomment pas. Et donc, toute la question, ça va être de savoir comment est-ce que nos modèles sociaux vont s'adapter. C'est pas une crainte pour moi, c'est vraiment un enjeu de bascule, parce qu'on va avoir besoin, effectivement, de toutes ces aides pour des tâches que plus personne ne veut faire et qui, pourtant, nécessitent de l'aide, avec une très grande question derrière, mais c'est pour une autre fois, qui est celle de la présence, parce qu'un robot pourra sans doute se substituer et assister dans plein de... tâche de la vie quotidienne, il remplacera jamais la présence de quelqu'un, même quand ce quelqu'un est insupportable.
Tu sais, je pense qu'avec les progrès de l'IA générative et des assistants vocaux, on arrive aujourd'hui à avoir des conversations avec des IA qui sont quand même assez bluffantes. Et je me dis que demain, avec les progrès qu'on va avoir dans ce domaine-là, on pourra avoir aussi des interactions bluffantes avec ces machines, je pense. Oui. Christophe.
Non, c'est vrai qu'ils répondent à des grands enjeux, des enjeux de dépendance, etc., mais aussi des enjeux militaires, hein, parce que c'est aussi un énorme risque on est obligé de maîtriser ces technologies-là. Donc l'avance qu'ont pris les Chinois, je pense qu'au niveau américain, ils vont mettre le paquet. Nvidia est très très présent sur le sujet. Oui. Pas seulement sur les chipsets, mais aussi sur le développement de sa plateforme, la GR00T, là je crois que c'est le nom, qui vise en fait à devenir une plateforme sur laquelle ils vont OEMiser finalement cette plateforme logicielle et le potentiel. Je crois qu'il c'est de l'ordre de 40 trilliards de dollars de ce qu'a dit Jensen Huang sur ce que représente potentiellement la robotique au sens large. Donc oui, je pense que c'est un énorme enjeu. Et là, c'est un bon exemple là où l'Europe regarde un peu
les trains passés.
Elle regarde surtout les feux d'artifice chinois dont on n'a surtout pas, enfin dont on n'a pas compris la symbolique. Et quand vous êtes capable de faire des feux d'artifice en 3D avec des effets magiques, avec des milliers de drones parfaitement synchronisés, en fait, vous faites une démonstration de force militaire
énorme
qui est sous nos yeux.
Oui.
À tous les nouvel ans chinois, à tous les nouvel ans, c'est sous nos yeux et on n'a pas compris.
Ça sera le mot de la fin parce que c'est vrai que c'est très fort. Bravo, Philippe. Il mérite d'être chez Jolt hein, quand même. Mm-hmm. Hein. Là, c'est la conclusion.
La robotique, c'est fantastique.
La robotique, c'est fantastique. Alors, pas tout de suite, mais dans 10 ans. Hein, moi, je pense qu'il y a tout un sujet, évidemment, pour les seniors qui restent chez eux et qui auront besoin d'assistance. On voit que c'est de plus en plus compliqué pour eux de trouver des hommes et des femmes qui viennent. Voilà. Et
hôpitaux,
je pense que ces robots peuvent avoir véritablement...
Même dans les hôpitaux. Hein.
Dans les hôpitaux aussi, bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Philippe Devost, Christophe Olnet et Frédéric Simotel. On se retrouve demain, Fred, bien sûr.